d'être venu à ce point de presse, à la suite de notre sommet qui était de nature informelle, comme vous le savez, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre du jour précis et qu'il n'y avait naturellement pas de décision. C'était au fond, en réalité, une prise de contact avec le nouveau président des États-Unis. Alors, naturellement, l'actualité nous a fourni un certain nombre de sujets qui se sont imposés. D'abord, la situation en Macédoine, qui nous préoccupe tous beaucoup, et qui a été examinée par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement présents. Nous sommes convaincus du danger qui existe pour ce qui concerne la stabilité de la Macédoine et plus généralement de l'ensemble de la région. Nous avons pensé qu'il fallait qu'un effort important soit fait pour à la fois conduire à la démilitarisation, c'est-à-dire soutenir le plan de l'actuel président macédonien et faire une pression aussi amicale que possible auprès des autorités macédoniennes pour que le dialogue interne en Macédoine puisse permettre de trouver une cohésion nationale plus forte et donc une capacité de résister plus importante. Nous sommes en pleine concertation et il va de soi que nous ne sommes pas allés beaucoup plus loin publiquement dans cet exercice, sauf à avoir demandé à M. Solana et à M. Robertson d'aller rapidement, ensemble ou séparément, mais de façon totalement concertée, à Skopje. Nous avons également naturellement parlé de l'évolution de l'Alliance Atlantique, et qu'il s'agisse de son évolution interne ou des futurs élargissements. Sur le plan interne, nous avons évoqué l'émergence d'une Europe de la défense, constaté qu'elle était dans la nature des choses et qu'aujourd'hui, elle était admise par l'ensemble de nos correspondants, qu'il s'agisse des Américains ou des Canadiens ou qu'il s'agisse des Européens, avec une Europe de la défense qui est non seulement une nécessité pour des Européens qui veulent exister, mais qui est aussi un atout pour l'OTAN et un renforcement pour l'OTAN. Et de ce point de vue, les choses se passent bien. Comme vous le savez, il reste un problème qui est celui des relations entre l'OTAN et l'Union européenne, la défense européenne, relations qui ont fait l'objet d'un accord entre l'ensemble des partenaires à l'exception de la Turquie, mais qui aujourd'hui butent encore sur des réserves de la Turquie qui, je dois le dire, et si j'ai bien compris, l'intervention du Premier ministre de Turquie n'ont pas été levées par lui. Donc nous avons là un problème qu'il faudra encore régler. Et nous avons évoqué aussi les évolutions externes, c'est-à-dire en clair l'élargissement, sous plusieurs aspects. D'abord, naturellement, nous ne souhaitons pas, et notamment la France ne veut pas, qu'il y ait une nouvelle ligne de fracture en Europe. Et par conséquent, nous sommes favorables à l'élargissement dans le mouvement général de réunification du continent européen. Réunification engagée depuis 10 ans. C'est la famille européenne qui se rassemble et qui se retrouve. Ce n'est pas facile, naturellement. Mais cela progresse, jour après jour. Alors, naturellement, tout ceci sera, comme vous le savez, examiné à Prague, en 2002, au sommet de Prague. Mais, incontestablement, si vous voulez, l'approche est une approche positive. L'approche de l'ensemble des parties prenantes est une approche positive pour l'élargissement. Et je pense tout particulièrement à nos amis roumains. Cela va de soi. Vous savez que nous soutenons depuis longtemps, et la thèse de nos amis roumains dans ce domaine. Nous avons également évoqué les affaires stratégiques très rapidement, parce que ce n'était pas ni le lieu ni l'objet, les propositions de lutte antimissile faites par les Américains. Pour ce qui concerne la France, elle est naturellement tout à fait prête au dialogue dans ce domaine, à la concertation. Vous savez que nous avons quelques réserves et quelques craintes liées notamment à la prolifération que cela risque d'impliquer dans le domaine notamment balistique et dans le domaine des armes à destruction massive, mais nous sommes tout prêts à la concertation, au dialogue, à la discussion qui se développera entre les pays européens, notamment, et d'autres, et les États-Unis. Alors, en revanche, une chose est la défense contre une attaque éventuelle, une autre chose est la prévention. Et dans le domaine de la prévention, c'est-à-dire dans le cas particulier pour la prolifération, nous sommes alors très déterminés à obtenir une accentuation forte de la lutte contre la non-prolifération. Contre la prolifération, pour la non-prolifération. Car de ce point de vue, nous avons pris beaucoup de retard et c'est dangereux. Alors, nous en reparlerons d'ailleurs à Göteborg. La France a lancé une initiative tendant à permettre de donner un cadre beaucoup plus contraignant à la lutte contre la prolifération, fondée sur l'universalisation des principes du MTCR, et nous espérons que nous pensons que nous serons suivis par l'ensemble de nos partenaires de façon à ce que nous puissions décider à Göteborg le principe de l'universalisation du code de conduite du régime de contrôle des technologies balistiques. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'élaboration d'une sorte de TNP balistique, car cela pourrait être mal interprété, et ce n'est pas ce que je veux dire, je ne fais une référence à l'ancien TNP, mais c'est, si vous voulez, un système de même nature, c'est-à-dire un système qui soit également contraignant. Et voilà en gros ce que nous avons dit et fait aujourd'hui. C'est poursuivi par un déjeuner qui nous a conduit à parler essentiellement de la Macédoine. Madame.
Mr. President, may I ask a question in English? Patricia Kelly from CNN.
Moment.
Mr. President, you seemed to suggest in your remarks to the summit that NATO should maybe not rule out military intervention in the future. At what point would you, in Macedonia that is, at what point in the future would you think that that might be necessary? And secondly, speaking with both your NATO and your EU hat on, will Mr. Robertson, Lord Robertson or Mr. Solana be meeting at any point during their journey to Skopje with any of the rebel factions? Is it time that NATO and the EU changed their tactics towards the rebels?
Tout d'abord, je crois qu'il n'y a pas de solution militaire à ce problème. Je crois que la solution, si on veut qu'elle soit sérieuse et durable, ne peut être que politique. Alors, ça suppose naturellement d'avoir des partenaires raisonnables, ce qui n'est pas toujours le cas. D'où l'importance de l'action diplomatique. Alors, je ne vous dirai pas ce que je pense d'une éventuelle action militaire, parce que pour moi, c'est l'ultime recours, et dans la mesure où rien d'autre ne serait possible, et qu'il faudrait sauver des vies humaines. Mais je le répète, je ne pense pas que ce soit là la bonne solution. Nous avons d'ailleurs beaucoup insisté pour que la présence sur le terrain de Solana marque bien que ce n'est pas seulement le secrétaire général de l'OTAN, qui vient, et qu'il y a une recherche politique. Alors, naturellement, j'imagine que l'on verra, que nos représentants verront tout le monde. Voilà, et je souhaite également que nos amis macédoniens comprennent qu'il faut faire un réel effort pour renforcer la cohésion nationale entre les diverses communautés à l'intérieur de la Macédoine. Je souhaite également que nos amis albanais comprennent que l'aide à des rebelles, comme vous les appelez, et qui sont des rebelles, oui, n'est pas de nature à faciliter la paix et le développement, la démocratie et l'européanisation dans cette région.
Constantin Savoyou pour Adevăr Bucarest. Monsieur le Président, la non-admission en 1999 de la Roumanie à Madrid, c'était vraiment une grande désillusion pour l'opinion publique roumaine.
Et pourtant, aussi, pour nous
tout
aussi.
À fait. En même temps, vous savez, Monsieur le Président, que l'armée roumaine n'a rien envié ni à l'armée tchèque, hongroise et polonaise. Et son histoire le prouve très bien. Alors, comment croyez-vous, Monsieur le Président, que la Roumanie, l'année prochaine à Prague, sera enfin admise, compte tenu que vous et la France, vous avez été le plus ardent défenseur de l'entrée de la Roumanie ? Cette fois-ci.
En 99, pour dire les choses comme elles étaient, une constatation, ce n'est naturellement pas une critique, en 99, il y avait une position très ferme de l'administration américaine, probablement en raison de la position du Congrès américain, et notamment du Sénat, qui ne voulait pas élargir l'OTAN au-delà des trois pays qui ont été admis. C'est comme ça. Et naturellement, nous avons obtenu des améliorations de forme, mais sur le fond, nous n'avons pas obtenu satisfaction. Je crois que les choses ont beaucoup changé. Et il me semble notamment que l'administration américaine d'aujourd'hui est beaucoup plus ouverte. Je ne dis pas qu'elle est favorable, je ne préjuge pas, je n'ai pas vocation à m'exprimer au nom de l'administration américaine. Mais mon impression, c'est qu'elle est beaucoup plus ouverte. Et par conséquent, je pense qu'il y a des chances sérieuses de voir l'élargissement s'opérer en 2002 de façon importante. Voilà mon sentiment. Et naturellement, au premier rang des pays demandeurs, il y a la Roumanie, qui a en quelque sorte un droit d'antériorité, puisque ça a été juste. Encore un effort plus important, et elle aurait pu entrer peut-être. Bien. Voilà, pour ce qui concerne la Roumanie et 2002. Mais je ne peux pas préjuger de ce que sera la situation l'année prochaine.
Pascal Verdeau, France 3. Monsieur le Président, vous avez rappelé ce matin dans votre intervention que le traité ABM restait un pilier de notre équilibre stratégique. De son côté, le président Bush rappelait lui hier à Madrid, affirmait à Madrid qu'il s'agissait d'une relique du passé. Alors, sans vouloir rejouer la querelle des anciens et des modernes, est-ce qu'un traité qui remonte à 72 est encore un traité opérationnel ?
Le traité... Peut-être pas, et je n'ai jamais prétendu que le traité était intouchable, naturellement. Mais les principes, ce sont les principes qui sont importants. C'est à ça que je voulais faire allusion. Et en ce qui concerne le traité ABM, il est fondé sur un certain nombre de principes qui répondent à des préoccupations capitales. Première préoccupation, il faut prendre garde de ne pas remettre en cause l'équilibre stratégique international. C'est capital. Sinon, nous allons sur la voie du danger. Aujourd'hui, cela repose sur le traité ABM. Ce n'est pas le traité qui est important. Naturellement, un traité peut être modifié, évolué, etc. C'est les principes. Alors, si un autre cadre devait être envisagé, ce que je conçois naturellement parfaitement, je l'ai d'ailleurs dit au président Bush, il faudrait à tout le moins qu'il ait un contenu réel et stabilisateur. C'est ça que qui, à mon avis, reste essentiel. Pas le traité ABM, c'est son contenu réel et stabilisateur. J'ajoute qu'il faut empêcher toute militarisation de l'espace. J'ai eu l'occasion de le dire dans un discours que j'ai fait devant l'IHEDN le 8 juin dernier, et c'est très important. La deuxième préoccupation, c'est qu'il faut par ailleurs rappeler la pertinence de la dissuasion. Et dans son concept de non-emploi, naturellement, ceci pour garantir notre sécurité dans le nouvel environnement international. Je l'ai aussi rappelé ce matin. Mais je dois dire que, de ce point de vue, nous n'avons pas de divergence de vue avec nos amis américains. Et enfin, et c'est la troisième préoccupation, il faut relancer les efforts de lutte contre la prolifération. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et ceci dans tous les domaines, mais notamment dans le domaine balistique. Alors, j'en ai parlé aujourd'hui, et je souhaite que l'Union européenne prenne l'initiative à Göteborg sur ce sujet en proposant, je le répète, je l'ai déjà dit, l'universalisation du code de conduite du MTCR, de façon à pouvoir donner un cadre plus contraignant pour lutter contre la prolifération. Il y a beaucoup de raisons à cela. D'abord, nous voyons que la prolifération augmente, dans tous les domaines, notamment balistiques, mais pas seulement balistiques, et c'est extrêmement dangereux. Deuxièmement, nous voyons bien que la perspective du système de défense antimissile, et qui est peut-être positive sur le plan de la sécurité, ça relève d'un dialogue et d'une discussion à laquelle nous participerons et sur lequel je ne me prononcerai pas aujourd'hui, mais en tous les cas, est une incitation très forte à la prolifération. Car il est bien évident que ceux qui voudraient pouvoir atteindre éventuellement un pays et qui se voient opposer un parapluie de protection qui a pour vocation d'arrêter une partie des tirs possibles auront pour réaction tout à fait naturelle de prendre les mesures nécessaires pour avoir le nombre de fusées correspondantes à ce qu'ils souhaitent obtenir et donc qui passeraient à travers le parapluie. Donc au lieu d'avoir 3 fusées, ils en auront 10 de façon à être sûr d'en avoir 3 qui arrivent. C'est une fantastique incitation à la prolifération. Et si vous ajoutez à cela naturellement que d'autres pays qui regardent cela se disent, mais après tout, puisqu'ils augmentent leur nombre de fusées, alors nous aussi on va l'augmenter, et que vous déclinez ça en chaîne, que vous mettez des noms sur les pays que je viens d'évoquer, vous avez naturellement un système qui, par définition, est proliférant. Alors, je dis simplement, parler de l'affaire de la défense antimissile et du parapluie, très bien, nous sommes tout à fait d'accord pour dialoguer, etc., dans ce domaine. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation actuelle, en toute hypothèse, rend absolument prioritaire une lutte contre la prolifération en général et balistique en particulier, et que l'éventualité de la mise en œuvre d'un parapluie antimissile, naturellement, renforce encore la nécessité de mettre en œuvre des procédures internationales contraignante de lutte contre la prolifération. Peut-être une dernière question.
Monsieur le Président, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vos collègues européens avaient montré plus de cohésion, aussi bien dans l'analyse des sujets que vous venez d'évoquer, que dans l'attitude vis-à-vis de la nouvelle administration américaine, plus qu'avant ou moins qu'avant? Est-ce qu'autrement dit, est-ce qu'il y a une véritable cohésion d'analyse en Europe?
Oui, et d'abord, il est normal et légitime et naturel que chacun ait son analyse en fonction de ses convictions, de ses contraintes. Bon. Je trouve que dans l'ensemble, l'Europe réagit de façon assez cohérente sur les propositions de la France concernant la lutte contre la prolifération. Nous avons commencé par saisir nos amis allemands, bien entendu, qui nous ont donné leur accord. Et à partir de là, il me semble que nous n'aurons pas de difficulté pour obtenir un accord au sommet de Göteborg. Sur les problème en général, je n'ai pas été sensible à de grandes divergences de vues. Non, progressons raisonnablement. Voilà, je vous remercie.
Merci, mon colonel. Merci. Commandant pour l'instant.